Une histoire de regard de Clément Sabag, illustrée par Bérangère Barillet-Gobet, c'est le livre de notre du Tac au Tac de ce mois-ci. La chronique audio réalisée en partenariat avec la Mare aux mots, le site sur la littérature de jeunesse animé par Gabriel Lucas, autour d'un livre pour enfants paru récemment, apprécié par tous les deux. Gabriel, lui, interview par écrit l'un ou l'une des auteurs ou autrices, tandis que du côté audio, pour du Tac au Tac, je pose quelques questions pertinentes ou impertinentes, toujours les mêmes, à l'un ou l'autre créateur du livre. C'est questions et leurs réponses sont comme une sorte d'invitation à entrer dans son petit monde de fabrication, d'inspiration, de création, à découvrir les hauts et les bas qui mènent d'une idée de départ à la réalisation d'un livre pour les enfants. Et quel livre malin que cette histoire de regard, un album pour les enfants dès 5 ans. Par un jeu subtil entre le texte, les images et la tourne de page, sur un rythme à 3 temps, l'album invite le lecteur ou la lectrice à suivre le fil des événements qui font toute une vie en lui posant toujours la même question. Qu'est-ce qu'il regarde ou qu'est-ce qu'elle regarde ? Accompagné d'une illustration qui montre les personnages, les yeux tournés vers le haut, vers le bas, sur le côté. Oui, qu'est-ce qu'il ou elle regarde ? On tourne la page et la réponse est là, dans le texte et dans l'image. Et c'est la combinaison des deux, texte et image, qui fait réponse. Parfois drôle, parfois poétique, parfois toute simple. Cela commence par deux visages adultes qui regardent vers le bas. Quoi ? Un petit cœur qui bat à l'intérieur, tandis que l'image montre un ventre tout rond de femme enceinte. Oui, le début d'une vie, celle d'une petite fille que l'on voit grandir au fil des pages, devenir adulte, puis mère à son tour, et des parents devenir grands-parents. Jeu de questions-réponses, voilà une manière de raconter le déroulement de la vie, pas vraiment nouvelle, on l'a déjà vu dans d'autres livres, mais ici, la réussite tient aux situations ou aux réponses parfois inattendues, mêlant les événements les plus banals et petits, des fourmis dans l'herbe, un petit frère insupportable, des poux dans les cheveux, une fête d'école, à d'autres plus exceptionnels, comme la mort d'un aïeul, une manifestation contre la déforestation ou la vision d'un tsunami à la télévision. Plus encore, c'est la manière de dire et de montrer qui fait mouche et fait sourire. Qu'est-ce qu'il regarde, émerveillé ? Une œuvre d'art, alors que l'illustration montre un dessin d'enfant. Qu'est-ce qu'il regarde, le regard courroucé ? Une artiste très, non trop inspirée, alors que la petite fille gribouille sur le mur. Qu'est-ce qu'elle regarde dans la cuisine, les yeux tournés vers le plafond, le regard interrogatif ? Un goûter à dévorer, non à décoller, tandis que l'image montre une crêpe collée au plafond, etc. Avec ses crayons de couleur, l'illustratrice Bérangère Barillet-Gobet campe toutes ses scènes, et particulièrement les jeux de regard, dans des illustrations très gaies et variées qui incitent à tenter de deviner la réponse grâce à quelques indices avant de tourner la page. Voilà un album ludique et joyeux pour évoquer les grandes questions de la vie avec les enfants. Une histoire de regard a paru le mois dernier aux éditions Le Diplodocus. Et avant de retrouver son autrice, Clémence Sabag, dans notre rubrique du Tac au Tac, pour laquelle elle s'est prêtée à notre jeu de questions-réponses, on l'écoute nous dire quelques mots à propos de cet album. Je lui ai d'abord demandé quel a été le point de départ du projet de ce livre.
Alors, il y a eu plusieurs points de départ. Tout d'abord, l'envie de réaliser un livre avec des rabbins et avec une petite surprise, une petite question qu'on pose au lecteur et l'envie de faire participer le lecteur qui se pose des questions et qui ait une réponse soit de l'autre côté de la page ou soit derrière le rabbin. Ça, c'était sur la forme du livre, mais je ne savais pas ce que j'allais raconter, quelles questions j'allais poser. J'ai fait un peu de photos, et lors d'un de mes cours de photos, j'ai vu une image d'Olivier Kuhlmann où on voit un homme qui a la tête en l'air et qui regarde au-dessus de lui, mais on ne voit pas ce qu'il regarde. Cette photo m'a interpellée parce que justement, on se demande ce qu'il regarde, ce qu'il y a à voir au-dessus. Je me suis dit que ça pouvait être aussi un point de départ pour raconter une histoire, interroger sur l'importance du regard. Et donc, je l'ai associé à cette idée précédente que j'avais de raconter une histoire avec des rabbins, des questions posées au lecteur.
Ce livre, il implique la place de l'illustration de façon très forte. Et donc, j'imagine que ça a demandé donc une certaine complicité avec l'illustrateur ou l'illustratrice. Est-ce que c'est vous qui avez choisi Bérangère Marillet-Gobet ?
Oui, j'avais déjà travaillé avec la maison d'édition Le Diplodocus. On fonctionne toujours de cette façon. Quand j'ai un projet, on réfléchit ensemble au choix de l'illustrateur. Et moi, j'avais suggéré son nom, ou je sais plus, ou peut-être Floriane, l'éditrice, l'avait suggéré. Bon, on était toutes les deux d'accord. Et ensuite, à chaque projet d'édition avec le Diplodocus, l'illustrateur envoie à l'éditeur et m'envoie à moi ses crayonnés, ses avancées, et on en discute ensemble. C'est toujours un travail à trois.
Donc là, ça a été le cas pour ce livre.
Oui, mais j'avais déjà suggéré des pistes d'illustration.
Qu'est-ce que vous entendez par suggérer ?
J'écris mon texte et à chaque fois, j'écris une petite phrase en expliquant ce que j'imagine comme illustration. Et après, l'illustrateur peut s'y coller, mais aussi l'interpréter à sa façon.
Et donc là, ça s'est passé comment pour une histoire de regard avec Bérangère Marie Gobet ? Je dirais, est-ce qu'elle a suivi vos instructions ou elle vous a surprise ?
Les deux à la fois. Elle les a interprétées à sa façon. Par exemple, pour la première page, quand on voit les parents avec le regard vers le bas, donc oui, j'avais indiqué que c'était un ventre qu'on devait voir sur la page suivante, un ventre avec des mains posées dessus, un ventre de femme enceinte, des choses comme ça.
Et comment vous avez choisi de le proposer au Diplodocus ?
J'avais déjà réalisé plusieurs livres avec eux et j'aimais beaucoup travailler avec eux. Un album, pour moi, c'est avant tout une aventure humaine. Autant le faire avec des gens avec lesquels je m'entendais bien. Et donc, je leur ai proposé, mais je savais pas du tout si c'était un livre qui pouvait leur plaire. Et puis, ils m'ont dit, allez banco. Alors, au début, j'avais imaginé des rabats pour chaque page. Ils m'ont dit que ça serait beaucoup trop cher à fabriquer. Et donc, ils ont décidé de n'en garder que quelques-uns pour les moments importants ou quand ça leur semblait pertinent.
Et par ailleurs, le livre est très beau au niveau fabrication, c'est un très beau papier. Hein.
Oui, tout à fait. C'est ça aussi que j'aime avec cet éditeur, c'est qu'il prête une énorme attention à la fabrication des livres. Et ça, c'est important parce qu'on doit, j'attache aussi une importance forte à l'objet, au plaisir qu'on a à le manipuler, à tourner les pages, à la qualité du papier, s'il accroche ou pas au doigt. Et donc là, ouais, je trouve qu'il est très réussi.
Merci beaucoup, Clément Sabag.
Merci à vous.
Vous écoutez Aligre FM sur 93.1.
Écoute, j'ai un éléphant dans mon jardin.
Et tout de suite, on enchaîne avec le du tac au tac avec Clémence Sabag.
Du tac au tac.
Du tac au tac.
Du tac au tac. Du tac au tac. Du tac au
tac. Une pastille sonore.
De Véronique Soulet.
Du tac au tac. Du tac au tac. Clémence Sabag est autrice pour la jeunesse. Son premier album, Rose Cochon, illustré par Françoise Rogier, apparu en 2017 aux éditions À Pas de Loup. Depuis, elle a publié une dizaine d'albums chez différents éditeurs et mis en image par différents illustrateurs ou illustratrices. À l'occasion de la parution de « Une histoire de regard » illustrée par Bérangère Marie Gobet aux éditions Le Diplodocus en mai 2022, Clémence Sabag répond aux questions de notre du tac au tac.
Question liminaire.
Par quoi commencez-vous un nouveau livre ?
Alors, une histoire ou un livre commence toujours par une envie de personnage, une envie de thème, de format parfois de livre ou de narration particulière, mais souvent une envie ne se suffit pas. J'ai besoin que plusieurs envies se rencontrent pour constituer une histoire ou un livre. Par exemple, pour mon livre Poulette qui est sorti récemment, j'avais envie d'écrire une histoire avec un personnage qui soit une poule, d'avoir plein de jeux de mots autour de la poule, mais ça suffisait pas en fait pour écrire cette histoire. Et tout d'un coup aussi, j'ai eu une envie d'évoquer la course effrénée que nous menons contre le temps. Et un jour, sans que je n'y prenne garde, ces deux envies se sont rencontrées. Et puis il y a une petite chimie qui a opéré et ça s'est transformé en bout d'histoire.
Question poussive.
Qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés quand vous faites un livre ?
Ce qui me pose le plus de difficultés, c'est d'ordonner mes idées, de les trier, de les choisir. J'ai toujours l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, d'écrire des banalités. Donc, c'est de dépasser peut-être les barrières que je me mets pour laisser venir à moi l'histoire et puis la laisser se dérouler.
Question impertinente.
Quel est votre livre le plus raté ?
Je sais pas vraiment. J'ai dû parfois écrire des livres de commande et parfois j'avais très très peu de temps. Et moi j'ai besoin justement de laisser mûrir les idées, mûrir l'histoire pour que vraiment elle puisse éclore. Et donc quand j'avais trop peu de temps pour écrire l'histoire, j'ai pas eu l'impression qu'elle avait pu arriver à un stade de maturation suffisant.
Question mélancolique.
Quel souvenir gardez-vous de votre premier livre pour les enfants ?
C'est un souvenir assez mitigé dans la mesure où j'avais envoyé mon manuscrit à plusieurs éditeurs et que le même jour, j'ai reçu d'abord une critique très constructive, mais de la part d'un éditeur de ce manuscrit, donc il ne le prenait pas. Mais je trouvais ces arguments assez convaincants et le soir même, je recevais un oui d'un autre éditeur qui avait un coup de cœur pour ce livre. À chaque fois que je pense à ce livre, j'ai toujours en tête les arguments de l'autre éditeur qui ne voulait pas le prendre. Mais une fois qu'il était sorti, j'étais ravie et ça m'a donné envie de réécrire d'autres histoires.
Question ordinaire.
Comment choisissez-vous vos maisons d'édition ?
Comment je choisis ? Ce sont eux aussi qui me choisissent, puisque j'envoie des manuscrits, parfois plusieurs, et donc les éditeurs qui me disent oui me choisissent. Mais sinon, dans l'ensemble, j'envoie mes textes à des maisons dont j'aime la production éditoriale. Je considère qu'ils sont assez audacieux dans leur production, que les livres sont bien fabriqués. Ça, c'est important aussi pour moi. Qu'ils travaillent avec des auteurs ou des illustrateurs que j'apprécie. Et selon la nature de mon texte, j'oriente mes envois. Il y a des éditeurs avec lesquels je travaille régulièrement. Comme ça se passe très bien, j'ai envie de renouveler l'expérience avec eux. Et donc, j'écris des textes spécifiquement pour eux.
Question piège.
À quoi sert une éditrice ou un éditeur ?
Un éditeur est indispensable parce que moi je travaille toute seule dans mon coin et j'ai pas toujours une objectivité parfaite sur ce que j'écris. Donc l'éditeur permet de recadrer mon texte, de me dire s'il ferait mieux de rester dans un tiroir ou si au contraire ça vaut le coup qu'il voit le jour. Et donc il me permet de travailler plus en profondeur la cohérence de mon histoire, permet de sortir, je suis obligée d'aller plus loin dans ce que j'ai à dire. J'aime bien quand l'éditeur aussi propose parfois des idées ou une éditrice avec laquelle je travaille beaucoup en ce moment, elle me propose des sujets à traiter, donne des idées vers lesquelles je ne serais pas forcément allée. Et j'aime bien ça aussi, qu'elle me lance des défis. Je travaille beaucoup aussi par défi et donc j'aime beaucoup et quand une éditrice me lance un défi en me disant bah, « Tiens, sur tel sujet, qu'est-ce que tu pourrais faire ?»
Question féministe.
Est-ce que vous vous posez la question de la représentation des filles et des garçons ?
Oui, oui. En fait, je ne m'étais pas posé cette question au tout début. Et j'avais rencontré une éditrice qui m'avait expliqué que les petites filles devaient se projeter dans tout type de personnages et que les garçons, souvent, se projetaient moins dans les personnages féminins. Donc, souvent, moi, je propose des personnages féminins pour inciter tout le monde à se projeter, garçons comme filles, à se projeter dans ce personnage. Et j'ai une autre éditrice, j'avais justement choisi pour un de mes textes une héroïne féminine, et une éditrice m'a dit « Ton précédent album, c'est était déjà une fille, est-ce qu'on pourrait pas le changer et le transformer en garçon justement pour que les garçons puissent s'identifier ? Et moi je trouve qu'ils doivent faire cet effort d'identifier à la fois au personnage féminin comme masculin, comme nous, filles, on le fait.
Question artistique.
Quelle qualité attendez-vous d'un illustrateur ou d'une illustratrice avec qui vous faites un livre ?
J'attends d'abord qu'ils me surprennent. J'ai pas envie que l'illustrateur ou l'illustratrice mette en image mot à mot mon histoire, mais qu'il y ait vraiment une interprétation de mon histoire, qu'il soit un autre créateur, qu'un album soit vraiment une co-création et donc apporte son univers, sa vision de l'histoire, sa vision du monde par ses images.
Question tendre.
Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans ce que vous faites aujourd'hui ?
L'acte de créer, je suis toujours fascinée en fait par ce qui se passe d'une idée, de voir que on peut avoir un livre juste avec un jour une idée nous traverse l'esprit et puis quelques temps plus tard on a un livre qui passe de main en main.
Question insupportable.
Qu'est-ce qui vous déçoit le plus dans ce que vous faites aujourd'hui ?
Certaines relations avec des éditeurs, les difficultés pour obtenir un contrat, avoir une reddition des comptes en temps et en heure, être payé en temps et en heure, être obligé de réclamer comme si on réclamait un cadeau de Noël. Voilà.
Question nostalgique.
Quel est le livre que vous relisiez sans cesse quand vous étiez enfant ?
Un livre de contes du monde entier. un livre qui me permettait de découvrir d'autres cultures, de voyager. C'était toujours un peu des mythes qui expliquaient la façon dont le monde avait été construit et qui me permettaient, moi, de comprendre le monde dans lequel j'évoluais, quelle était la place que je pouvais y prendre.
Question concrète.
Quels sont les trois objets qui définissent votre lieu de travail ?
Alors, l'ordinateur, des cahiers lignés, j'ai un cahier par projet, et puis un crayon de préférence gras pour que les mots puissent glisser facilement sur la page. J'alterne entre l'ordinateur, le cahier. Dès que je suis bloquée dans une idée, que j'arrive pas à la coucher sur l'ordinateur, je l'écris à la main sur le cahier. J'ai toujours l'un à côté de l'autre. Je peux pas travailler sans ordinateur, je peux pas travailler sans cahier. Voilà, j'ai besoin vraiment du cahier, de l'ordinateur et du crayon.
Une question sérieuse.
À quel moment avez-vous su que vous feriez ce que vous faites aujourd'hui ?
Je crois que j'ai toujours voulu avoir un métier créatif. Donc ça a toujours été un rêve et là je réalise pas encore tout à fait bien que c'est mon métier et j'espère que je pourrai le continuer encore de longues années. Donc je sais pas, c'est pas encore tout à fait réel, oui.
Du tac au tac, 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 du tac au tac.
Du tac au tac, notre chronique audio réalisée chaque mois en collaboration avec le site La Mare aux Mots et avec la complicité de Lionel Chenaille, vous l'aurez reconnu, était ce mois-ci donc avec l'autrice Clémence Sabag, dont le livre Une histoire de regard, illustré par Bérangère Barrier-Gobet, vient de paraître aux éditions Le Diplodocus. Vous pouvez l'écouter sur le site de La Mare aux Mots ainsi que sur mon podcast Cultivons les enfants, disponible sur toutes les plateformes dédiées.